Une chronique d'abord qui revient une fois par mois pour commencer, une chronique qui nous balade, c'est la chronique d'ici et d'ailleurs de Sophie Amonet, car c'est le dernier mercredi du mois et aujourd'hui Sophie nous emmène à la fois en Suède et en Pologne grâce à une seule personne, Marek Rybak, qui vit en Finistère à Landerneau où il fabrique des abat-jours artisanaux et artistiques et on l'avait rencontré à cette occasion dans l'EM. Le voici donc dans le registre plus personnel de la chronique d'ici et d'ailleurs au micro de Sophie Amonet.
Bonjour Marek.
Bonjour Sophie, ça va?
Oui, et toi?
Merci de m'avoir invité.
Merci d'avoir accepté l'invitation dans le studio de Transistor.
Ouais,
Alors, notre première question c'est, d'où viens-tu?
Je suis né à Varsovie, de nationalité, je suis polonais-suédois.
Ok.
Par mes grands-parents, et moi et mon frère, nous sommes nés déjà à Varsovie. Donc on est resté à Varsovie, et puis moi j'ai déménagé en France en 2017.
Donc ça fera 10 ans l'année prochaine.
10 ans en France.
Oh, tu t'en rends compte?
Ouais, c'est énorme. C'est énorme. J'ai jamais compté ça en fait. Ouais.
Ton frère habite toujours?
Il habite toujours à Varsovie. Il a construit sa famille, sa carrière et tout. Je suis toujours en contact avec eux. On se visite. Ils sont venus me voir l'année dernière. Mais c'est vrai que quand on bosse, quand on travaille et qu'on est à 2500 km l'un de l'autre, c'est pas pareil. Mais on est des amis, donc on est en contact permanent.
Oui, vous êtes de la famille. Est-ce que vous avez toujours de la famille en Suède?
Alors, ça c'est marrant parce qu'en fait, toute ma famille se divisait par d'autres pays scandinaves. J'ai une cousine en Danemark, j'ai mon autre cousin en Finlande, en Norvège. Ils sont tous là. Bah, je sais qu'il y a quelqu'un en Suède, mais en fait, il y a presque personne là. Mais le reste, ils sont dans les pays scandinaves, toujours.
Voilà. Pays scandinaves, Pologne, et toi, tu es l'unique spécimen à t'être exporté en France.
Oui, ah, ça c'était mon rêve depuis toujours. Hein.
Ah,
mais vraiment,
wow,
depuis l'enfance. C'est marrant, mais j'ai eu une tante avec mon oncle qui travaillait pour une entreprise française, mais dans des années 80. Et ça m'a toujours fasciné, j'ai toujours aimé. Et en fait, c'est elle qui m'a commencé à m'apprendre un tout petit peu, mais par les chansons françaises, des petits machins, à l'âge de 7 ans. Et après, j'ai toujours pensé de venir, de visiter la France.
D'accord. Et cette tante-là, elle n'était pas française?
Non, elle était polonaise.
Elle travaillait juste dans cette entreprise?
Oui, elle était architecte avec son époux. Ils étaient architectes.
Et cette tante est toujours vivante?
Non.
Mais elle a su que tu avais emménagé en France?
Non, je pense qu'elle me voit très bien, mais de l'autre niveau. Ouais,
ouais. Ouais, de l'influence d'une tante quand t'es petit pour t'éveiller à la culture française.
Oui.
Donc elle t'avait appris quelques mots. Quelques chansons, c'est ça?
Mm-hmm. Mais ça, on va pas tenter aujourd'hui.
Mince, tu me voyais venir. Donc, tu avais quel âge quand tu es arrivé en France?
Alors, en fait, il faut savoir que moi, je suis ce qu'on appelle un enfant du communisme. C'est-à-dire, c'était à l'époque du communisme qu'on n'a pas pu voyager, on n'a pas eu grand-chose, ni l'échange, ni quoi. Alors, pour moi, les voyages, c'était des livres, des magazines et des choses comme ça. Même la télévision était vraiment hyper limitée. Pour moi, voyager, c'était d'apprendre les langues étrangères et puis découvrir comme ça. Et je me souviens très bien, il y avait un petit magazine qui s'appelait Okapi, que je pense que les gens
connaissent. Oui, je l'avais, moi. Voilà, j'adorais Okapi.
Il y a longtemps. Et pour moi, en fait, c'était même pas accessible à cette époque-là, okay. Parce que tu ne peux pas acheter des trucs étrangers parce que c'était interdit.
Okay.
C'était vraiment interdit, très contrôlé.
Comment tu savais que ça existait, alors?
En fait, c'était par des réseaux, par les gens qui ont un peu voyagé, qui ont amené des magazines, on a partagé.
Okay.
C'est pour ça qu'on a vraiment l'habitude de partager.
Ouais.
Parce que c'est à cette époque-là, comme il y a rien, tu devrais partager.
C'est ça, il y avait un exemplaire pour 20 enfants, peut-être.
Ah oui, bien sûr. Et puis, il ne fallait pas abîmer, on était soigneux, on a fait attention et tout. Et ça concerne, en fait, ça concernait tout. Et ça m'a permis de voir. Et puis, et après, quand je suis devenu un peu plus adolescent, c'était Paris Match.
Okay.
Match, voilà, le rêve des photos colorées. Mais vraiment, c'est un truc de dingue parce que tu ne peux pas t'imaginer que avec la télévision en noir et blanc, ce que je me souviens très bien. Et tu as des choses que tu découvres, hein, comme il y a le monde qui existe, mais juste à côté.
Voilà, et le monde en couleur et sur papier glacé.
Exact.
D'accord.
Alors là, j'avoue que c'était comme qu'aujourd'hui, on s'imagine de voyager dans l'espace ou quoi.
Est-ce que tu avais des camarades qui avaient cet attrait-là autant que toi, ou tu te sentais un peu l'ovni
En fait, oui et non, parce que quand j'étais tout petit gamin, bah, on a joué avec mes amis, mes collègues. Mais après, c'est vrai que j'ai commencé à apprendre le français au lycée. C'était un lycée bilingue à Varsovie. Et là, bon, c'était soi-disant un peu exclusif, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'accès. Il y avait beaucoup de candidats sur chaque place. À cette époque-là, il y avait des examens d'entrée, donc c'était hyper exigeant. Et moi, je voulais forcément apprendre le français. Et en fait, j'étais dans un groupe, dans une classe, avec mes amis que la plupart voyageaient à l'époque, où c'était des fils et des filles, des diplomates ou des gens qui ont voyagé,
qui avaient des liens avec la francophonie.
Exact. Donc, ça nous a permis d'échanger ensemble. Mais moi, j'étais le seul pauvre qui n'a jamais voyagé. Ouais. Donc,
pourquoi tu veux apprendre le français? Parce que au capi.
Exact.
Qu'est-ce que tu as fait ensuite?
Je me disais, j'ai fini mon lycée, je me disais, je vais faire Sciences Po. Et à cette époque-là, on m'a proposé un poste dans l'administration polonaise, qui était responsable des affaires de l'intégration européenne. Alors, j'étais responsable de ça. Et à cette époque-là, j'ai fini l'ENA en France, à Paris.
Okay.
On m'a proposé de participer au concours à l'école d'administration nationale. J'ai passé l'examen et j'ai fait l'ENA. Pour moi, c'était l'opportunité un jour de me développer, de partir et d'avoir un peu plus de possibilités dans mon futur travail.
Cette expérience ENA, tu étais à Paris alors?
Oui, c'était la dernière année à Paris.
D'accord.
À cette
époque-là. C'était la première fois que tu venais en France?
Non. Okay. J'étais pendant le lycée, on a eu deux échanges avec les lycées français, ce qui était aujourd'hui populaire.
Ensuite, lorsque tu étais en études supérieures et que tu as fait l'ENA à Paris, ça a duré combien de temps?
Pour mon travail, j'étais responsable des choses assez urgentes, importantes, donc j'étais obligé de faire un peu plus vite mes études. Donc je l'ai fait 7 mois.
Donc tu étais déjà en poste,
oui.
Mais tu avais l'opportunité de finir Sciences Po à l'ENA en France,
oui.
Pour être diplômé de l'ENA à Paris.
Oui,
exact.
Waouh, wow.
Et donc, sacré bagage,
ouais. Horrible, je préfère.
C'était horrible. Bah oui, mais tu as réussi finalement en 7 mois à t'adapter et à travailler et à réussir ton diplôme. Qu'est-ce qui était si important que ça en Pologne alors, pendant que tu étudier en même temps?
En fait, moi, comme j'ai commencé mon travail dans l'administration, au départ, j'étais l'assistant du ministre responsable des affaires européennes.
Okay.
Et ensuite, je suis devenu responsable du protocole diplomatique, c'est-à-dire j'étais responsable d'organiser toutes les visites qui se sont organisées à Varsovie, en Pologne.
Tu étais très jeune, tu avais quel âge?
J'ai commencé mon travail à l'âge de 19 ans. Quelques temps après, je suis devenu responsable du protocole.
Okay.
Donc j'ai organisé des visites.
Ah oui, ok.
Ouais.
Ils étaient habitués.
C'était stressant.
C'était stressant, ouais, parce que j'imagine que tu as eu des chefs d'État ou des chefs d'entreprise, des délégations.
On était président des pays, des premiers ministres et des chefs.
Et qu'est-ce que tu retiens ce travail-là, tu l'as fait combien de temps?
Pendant 23 ans.
Donc c'était avant de déménager en France. Et comment te vient l'idée de vouloir te former à créer des abat-jours?
Au départ, c'était vraiment pour mon plaisir. En fait, c'était d'avoir quelque chose à part mon travail, parce que ton travail, il consomme vraiment 24 sur 24. Hein. Et là, j'ai cherché l'opportunité de faire quelque chose, mais vraiment pour moi. Juste pour moi. J'aime lire, j'aime la musique, j'aime plein de choses, mais je fais rien après être venu à la maison. Donc je me disais, et en fait c'était marrant parce que là c'était lors des vacances, et moi je fais toutes mes vacances à vélo avec une tente, des campings, ça j'aime comme tout. Et je suis tombé sur une dame et son atelier à Bourges qui créait des abat-jours.
Okay.
Et je rentre, je dis, ça me plaît, c'est génial, j'ai toujours aimé la lumière, l'éclairage, les lampes, ça m'a toujours fasciné. Et là, j'ai dit, bah, écoutez, est-ce que vous faites par hasard des formations ? Elle dit, oui, oui, bien sûr, si vous voulez. Moi, j'ai dit, bah, oui, mais je repasserai à vous voir parce que bon, je suis avec mon vélo et c'est des vacances. Alors, elle a dit, ouais, bien sûr, mais comme
je ne te reverrai jamais.
Un an après, je la contacte, je dis, bah, écoutez, Christine, est-ce que c'est toujours possible ? Bah, je l'ai contactée un petit peu avant. Elle dit, oui, si vous voulez, on va faire. Alors, je suis venu et là, j'ai continué pendant 3 ans la formation chaque année.
Ah oui, et ça a duré si longtemps que ça ? Il y a tant que cette chose à savoir.
Et même, il y a 3 ans, je crois, je suis venu la voir encore pour améliorer encore quelques techniques. Parce que bon, il y a plein de techniques. Aujourd'hui, je sais faire tout, mais à l'époque, on commence par créer des choses vraiment
de base. Enfin, ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Exact. Et là, je me disais, bon, maintenant, je sais faire. J'ai créé quelques abat-jour pour moi, pour ma maison seulement, à Varsovie. Et quand on est arrivé ici en France, on s'est posé la question, ce qu'on va faire, hein, parce que bon, j'ai acheté une maison dans le sud. Et là, j'ai dit, je vais tenter de faire des abat-jour quand même. L'artisanat, il est vraiment très apprécié en France, ce qui n'est pas le cas en Pologne, malheureusement.
En France, il y a combien d'abat-jouristes, tu sais à peu près ?
Entre 10 et 15 personnes maximum.
Ok, donc c'est vraiment très peu.
Ouais.
Donc, tu as longtemps rêvé de la France et quand tu as vraiment découvert la France concrètement dans son quotidien, est-ce que tu as été déçu ou pas ?
Heureusement, non. Heureusement, non. Heureusement, pourquoi ? Parce que tu prends le risque. Il y a toujours un recul. Je peux toujours revenir en Pologne, mais je ne voulais pas. Mais c'est vrai qu'il y a une petite différence entre les rêves et ce que tu te projettes et ce qui est en réalité. J'ai débarqué en vrai en 19 et 3 mois après, il y avait le Covid.
La mince.
Alors, moi, j'ouvre ma petite boutique à Jean, en centre-ville. Mais on est confiné. Donc, je me dis, oh mince, est-ce que c'était un bon ou mauvais signe ? Est-ce qu'on me dit quelque chose ?
Ouais. Mais... Est-ce que l'univers essaye de communiquer ?
Il te dit... Non, mais alors je me disais, je vais consacrer ce temps à la création. Et après, c'est vrai qu'après quelques temps, je suis nordique. Et c'est très difficile de rester, de vivre dans le sud de la France. Parce que par rapport au climat, j'ai essayé, c'est difficile.
Il fait trop chaud.
C'est trop chaud. c'est chaud. Et en hiver, c'est humide, donc c'est froid.
Et ça, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles tu as déménagé en Bretagne.
Oui.
Et comment tu as jeté ton dévolu sur Landerneau ?
Un coup de cœur, un vrai coup de cœur.
Okay.
C'était lors des vacances, parce que bah, comme d'habitude, on a fait des vacances à vélo, 1500 km à vélo. On a découvert presque tous les villages, croyez-moi, dans le coin. Et je me souviens très bien, en arrivant à Landerneau, il y avait quelque chose.
Okay.
Tu le sens ou tu le sens pas.
Donc tu as suivi ton instinct et c'était le bon ?
Oui.
Bah, super.
Ouais, je suis content.
Merci beaucoup, Marek.
Merci, Sophie, infiniment.
Je t'ai même pas demandé comment on dit bonjour en polonais.
Ah oui, on dit dzień dobry.
Dzień dobry. Voilà. Et comment on dit au revoir, alors ?
Do widzenia.
Do widzenia, Marek.
Parfait, génial. Au revoir, à la prochaine. Merci infiniment pour cette conversation.
Retrouvez toutes les chroniques d'ici et d'ailleurs de Sophie Amonet sur le site internet de Transistor.